All Little Rock, tous les 4 mercredis, de 22h30 à minuit, sur Radio Campus Paris. Épisode 3, British Blues Boom, Beatlemania et British Invasion. En juillet 1957, John Lennon, un jeune adolescent de Liverpool et guitariste dans un groupe de skiffle nommé les Quarrymen, se produit lors d'un concert pour une fête paroissiale. Il attire la curiosité d'un certain Paul McCartney qui s'approche et lui joue à la guitare des chansons d'Eddie Cochran, de Gene Vincent et à peu près tout le répertoire de son idole Little Richard. Lennon reconnaît que ce nouveau-là est talentueux et accepte, après quelques pintes et après insistance de son bassiste, son intégration dans le groupe. Ils seront rejoints en février 1958 par un ami de McCartney nommé George Harrison. Autodidacte, influencé par le rock'n'roll et le blues noir américain, les trois musiciens jouent les morceaux de rock du moment à l'oreille, sans partition. À trois, guitariste et chanteur, au sein d'une formation à géométrie variable qui s'appelle Tour à Tour, The Rainbows et Johnny and the Moondogs, avec ou sans batteur, ils se produisent dans des clubs de Liverpool, notamment au Jarakanda, un coffee shop dirigé par Alan Williams, qui sert d'agent au groupe débutant. D'autres portes s'ouvrent ensuite, dont le Cavern Jazz Club, alors que le rock'n'roll et le Mersey Beat, les styles des groupes de Liverpool, deviennent populaires dans la ville. Un ami peintre de John Lennon, Stuart Sutcliffe, rejoint le groupe en janvier 1960 et leur suggère d'adopter le nom de Beatles, un hommage au groupe accompagnant le rocker Buddy Holly de Crickets, ainsi qu'au film L'équipée sauvage avec Marlon Brando, où il est question d'un gang du nom de Beatles. Ils utilisent ce nom jusqu'en mai, puis adoptent définitivement en août le mot valise Beatles, formé à partir de beat, le rythme, et Beatle, le scarabée, avant de quitter Liverpool afin d'honorer leur premier contrat dans un club de Hambourg.
No!
Bruno Koschmider, propriétaire de l'Indra Club et du Kaiser Keller, deux clubs du quartier de St. Pauli à Hambourg, engagent les Beatles sur les indications de leur agent, Alan Williams. Cinq jours avant de partir pour l'Allemagne, le 17 août 1960, ils ont auditionné et engagé un batteur nommé Pete Best. Les conditions de travail sont difficiles. Le jeune groupe est logé dans des conditions insalubres et pour satisfaire le public des clubs hambourgeois, ils élargissent leur répertoire, donnent des concerts physiquement éprouvants et recourent à des stimulants pour rester éveillé. En novembre 1960, lorsque Koschmider apprend que les Beatles se sont produits dans un club rival, le Top Ten Club, il met fin à leur contrat et dénonce Harrison aux autorités allemandes. En effet, celui-ci a menti sur son âge et se fait expulser en Angleterre à la fin novembre. McCartney et Best, qui tentent de récupérer leurs effets dans leur ancienne chambre peu éclairée, enflamment un préservatif accroché à un mur pour y faire de la lumière. Furieux, Koschmider les accuse d'avoir tenté d'incendier le logis. Ils passent la nuit en prison et le lendemain se font également expulser. Lennon reste en Allemagne jusqu'en décembre, en compagnie de Sutcliffe. Les Beatles effectuent en tout 5 séjours à Hambourg, entre août 1960 et décembre 1962. Entre leurs différents voyages en Allemagne, ils continuent à se produire à Liverpool et dans ses environs, se constituant un solide noyau de fans, mais restent inconnus au-delà du Merseyside. En décembre 1961, ils ne jouent que devant 18 personnes à Aldershot, dans la lointaine banlieue de Londres. C'est à cette époque qu'ils adoptent une coupe de cheveux caractéristique, la mop top, qui se différencie de la banane ou des cheveux des rockers, gominés et peignés en arrière. La photographe Astrid Kircher, sous l'influence des existentialistes ou des étudiants en beaux-arts de cette ville, aurait été à l'origine de cette coupe de cheveux en bol lors de leur séjour à Hambourg. Elle aurait coiffé ainsi Sutcliffe, son amoureux et le jeune Harrison. John Lennon et Paul McCartney l'ont ensuite adoptée. Des changements interviennent puisque Stuart Sutcliffe, bassiste du groupe depuis le début de l'année 60, maîtrise mal son instrument. Il se produit généralement dos au public afin que cela ne se remarque pas et joue même parfois sans que son instrument soit branché à un ampli. Paul McCartney, jusque-là guitariste au même titre que John Lennon et George Harrison, devient le bassiste du groupe, ses deux camarades n'étant pas enthousiastes pour tenir ce rôle. Les Beatles font aussi la connaissance de Richard Starkey, alias Ringo Starr, batteur du groupe Rory Storm and the Hurricanes, qui deviendra par la suite leur batteur. C'est aussi à Hambourg qu'ils décrochent leur premier contrat d'enregistrement chez Polydor en tant qu'accompagnateur du gros chanteur et guitariste Tony Sheridan. Le 45 tours My Bonnie The Sense, crédité à Tony Sheridan and the Beat Brothers, est publié en Allemagne en octobre 1961, mais publié en Angleterre le 5 janvier 1962, cette fois au nom de Tony Sheridan and the Beatles. Cry for a Shadow est ainsi la première chanson originale du groupe à être publiée lorsqu'elle apparaît, en janvier 62, sur le super 45 tours français de Sheridan intitulé Mr. Twist. Les 8 chansons tirées de ces séances seront compilées en 64 sur le disque allemand The Beatles First et du même coup éditées en singles un peu partout dans le monde. Pendant ce temps-là, le 17 octobre 1961, Mick Jagger et Keith Richards, deux amis d'enfance, ayant fréquenté la même école depuis la maternelle puis s'étant perdus de vue, se retrouvent par hasard sur le quai de la gare de Dartford. Mick a avec lui des disques de blues de Chuck Berry et le Best of Muddy Waters, ce qui attire instantanément l'attention de Keith, qui de son côté s'essaye au blues depuis ses 6 ans à la guitare. Tous deux sont fans du blues américain et de ses légendes, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Jimmy Reed, John Lee Hooker et consorts. Keith Richards raconte alors. Au début avec Mick ça se passait comme ça, on mettait la main sur un nouveau disque, par exemple un Jimmy Reed, moi j'apprenais les morceaux à la guitare, lui recopiait les paroles, et on disséquait ça dans tous les sens. Comment ils faisaient, comment ils arrivaient à avoir ce son, nous aussi on voulait avoir ce son classe et cool. Puis tu tombais sur d'autres mecs qui avaient les mêmes envies et tu te disais, ouais on peut y arriver. On a dû passer une année avec Mick à faire la chasse aux disques, jusqu'à que les Stones commencent un peu à prendre forme. Il y en avait d'autres qui écumaient les mêmes magasins. On s'y retrouvait et si tu n'avais pas de thunes, ça ne t'empêchait pas de tailler le bout de gras. Mais Mick avait des contacts dans le blues. Il connaissait des collectionneurs, des gars qui étaient en contact avec les Américains depuis avant tout le monde. Dave Golding de Bexley Heath avait ses entrées chez Sue Records et on racontait qu'il avait la meilleure collection de soul et de blues de la région de Londres. Et comme Mick le connaissait, il passait le voir directement chez lui. Il n'empruntait pas de disques, il n'en volait pas non plus. Il n'y avait ni magnéto ni cassette, mais parfois on se débrouillait et quelqu'un copiait tel morceau sur bande magnétique, le plus souvent grâce à un appareil Grundig. Dans les années 60, les amateurs de blues british valaient le détour. C'était de drôles d'oiseaux. Ils se réunissaient comme les premiers chrétiens dans des petites salles au sud-est de Londres. Le blues était leur seul point commun. Il y avait des gens de tous les âges et de tous les bords. Ça faisait drôle d'entrer dans une pièce où la seule chose qui comptait, c'était le dernier disque de Slim Harpo qu'on était tous en train d'écouter. Et tout le monde était d'accord. On passait notre temps à échanger des références. On discutait des heures pour savoir si on avait bien la gomme lac correspondant au premier pressage d'origine. La phrase clé, c'était « Bordel, j'aimerais pouvoir jouer comme ça ». Mais les gens qu'il fallait fréquenter pour obtenir le dernier petit disque, les puristes du blues étaient archi coincés, ultra conservateurs, les nerds à lunettes qui vous prenaient de haut et pensaient être les seuls à savoir ce qu'était le vrai blues. Ah ça, ils étaient persuadés de savoir. Ils se la jouaient à Bexley East Londres. Ouais, mais ils ne connaissaient pas la moitié des chansons. Ils ne comprenaient même pas de quoi ça parlait, et s'ils avaient su, ils auraient fait dans leur froc. Jagger et Keith Richards font ensuite la rencontre de Brian Jones le 2 avril 62 au Healing Jazz Club, suite à une annonce postée par ce dernier pour monter un groupe. Brian Jones, qui se produit sous le nom de Elmo Lewis, impressionne le public en jouant de la guitare slide, à l'époque inconnue en Angleterre. Les trois acolytes emménageront au 102 Edith Grove dans le quartier de Chelsea, un appart répugnant où ils passeront l'hiver le plus froid depuis 1740. Les quelques shillings qui glissaient dans le compteur pour avoir un peu de chaleur, du gaz et de l'électricité n'étaient pas faciles à dénicher. C'était une période de vache maigre, avec des difficultés pour se nourrir et se chauffer, mais surtout de travail et de répétition intense. Keith Richards décrit alors « À cette époque, on était des idéalistes avec une mission, promouvoir bénévolement le blues de Chicago, tout pour la cause, et étudier la technique intensément, avec une concentration monastique, en tout cas à moi. » Depuis le temps où je me réveillais jusqu'à celui où je m'écroulais, chaque instant était consacré à l'apprentissage et à l'écoute du blues, et à la recherche d'un peu de thune. On avait besoin de travailler ensemble, de répéter, d'écouter de la musique, de faire ce qu'on voulait. C'était maniaque. On n'avait rien à envier aux moines bénédictins. Celui qui quittait le nid pour un plan baise était un traître. On était censé passer tout notre temps à étudier Jimmy Reed, Muddy Waters, Little Walter, Holly Wolf et Robert Johnson. c'était notre trip et tout le reste était péché.
Red, started down the road, started down the road. With all he had started down the road. Going out in this world, well, God only knows. And that'll be the way to get along. Well, poor boys, all he had, family come in their land. Family come in their land. Spent all he had, family come in their land.
À leur retour d'Allemagne, après leurs deux premiers voyages formateurs à Hambourg, les Beatles ont acquis la maturité qui leur manquait. Techniquement d'abord, sur scène ensuite. Brian Epstein, qui tient un magasin de disques, est intrigué par ce groupe local dont il a le 45 tours en magasin et qui figure souvent dans le Mercy Beat, le journal musical local de Bill Harry, lequel se vend comme des petits pains dans sa boutique. Disquaire à l'origine, Epstein n'a jamais dirigé de formation musicale auparavant, mais connaît quelques-uns des à-côtés qui mènent à la popularité d'un artiste et rêve d'une carrière dans le monde du spectacle. Il propose au groupe de devenir leur manager et un contrat est signé le 24 janvier 1962. Epstein devient rapidement un mentor et un ami. Il les propulse au rang de musiciens professionnels. Afin de gommer leurs images de sauvages, il leur fait abandonner les vêtements en cuir au profit de complets vestons, comme les professionnels de l'époque. Déjà en 1961, Brian Epstein commence ses tournées des maisons de disques de Londres afin de tenter de leur faire signer un contrat d'enregistrement, multipliant sans succès les tentatives auprès des grandes compagnies discographiques. Il essuie des refus, même de la compagnie EMI, mais réussit tout de même à obtenir pour son groupe une audition chez Decca, qui est restée célèbre. Le 1er janvier 1962, les Beatles enregistrent 15 titres en une heure pour ce label, mais le directeur artistique Dick Rowe refuse de les prendre en main en déclarant « Rentrez chez vous à Liverpool, monsieur Epstein, les groupes à guitare vont bientôt disparaître. » Rowe sera par la suite surnommé dans le milieu « The man who turned down the Beatles », l'homme qui rejeta les Beatles. C'est finalement chez EMI qu'un contrat d'enregistrement sera décroché, et le 9 mai, exactement 6 mois après avoir vu les Beatles pour la première fois au Cavern Club, Brian Epstein rencontre George Martin pour valider le contrat. Il y est stipulé que 6 chansons seront enregistrées par EMI, qui financera le tout. Le label sera le propriétaire des enregistrements, mais ne donnera aucune avance sur les redevances. Un penny par 45 tours vendus sur 85% des ventes. Le contrat a une durée de 4 ans pour le groupe, mais d'un an pour EMI. Renouvelable à chaque anniversaire et est valable dans le monde entier avec des redevances réduites de moitié par rapport à celles perçues en Angleterre. Dans les faits, si par miracle le groupe vendait 1 million d'exemplaires d'un single, ses royalties seraient de 750 pounds au Royaume-Uni et de 375 pounds aux États-Unis pour chaque membre du groupe et leur manager. Le 18 mai, Brian Epstein signe le contrat liant les Beatles à EMI. La date inscrite sur le contrat est le 4 juin 1962.
If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, oh please don't run and hide. If I love you too, oh please don't hurt my pride like her. 'Cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if our new love was in vain. So I hope you see that I would love to love you, and that she will cry when she sad if our new love was in vain. So I hope you see that I would love to love you, and that she will cry when she learns we are two. If I fell in love with you,
le 5 octobre 1962 sort Love Me Do, qui n'atteint que le 17e rang au palmarès britannique. Ce n'est pas encore la Beatlemania, mais il s'agit d'une grande satisfaction pour le groupe, particulièrement au moment où le titre passe de plus en plus à la radio. Leur deuxième 45 tours, Please Please Me, Ask Me Why, est mis en boîte le 26 novembre 1962, cette fois avec Ringo Starr derrière sa batterie. Leur second 45 tours est publié le 11 janvier 1963, et la face A, malgré un titre et des paroles osées pour l'époque, est propulsé au premier ou au second rang, dépendamment des listes consultées. Quoi qu'il en soit, le succès est indéniable, et les Beatles obtiennent ainsi l'occasion d'enregistrer un album complet. La popularité des Beatles se répand alors dans tout le Royaume-Uni, qu'ils sillonnent inlassablement, y effectuant 4 tournées cette année-là. Les succès se suivent. From Me to You en avril, puis She Loves You en août, sont classés numéro 1 des ventes de singles. She Loves You et son fameux rend les Beatles célèbres dans toute l'Europe. Leur passage, le 13 octobre 1963, dans le très populaire show télévisé londonien Sunday Night at the Palladium, marque le début du phénomène que la presse britannique baptise la Beatlemania.
You think you've lost your love? Well, I saw her yesterday. It's you she's thinking of, and she told me what to say. She said she loved you, and you know that can't be bad. Yes, she loves you, and you know you should be glad. She said you hurt her so, she almost says she knows you're not the hurting guy.
love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad.
La Beatlemania se développe dans toute son ampleur en septembre-octobre 63 et prend tout le monde au dépourvu, y compris le manager du groupe Brian Epstein. Les scènes d'hystérie collective se multiplient au gré des tournées du groupe, hurlements, évanouissements, mouvements de foule et salles de presse prises d'assaut par le public et les journalistes. Les Beatles font la une de tous les journaux, rallient tout le pays à leur cause. Ils deviennent un argument médiatique et même politique. Les dirigeants britanniques très critiques de prime abord ne tarde pas à comprendre que persister dans cette voie équivaut à un suicide politique. La Beatlemania se répand comme une traînée de poudre. Les produits dérivés se multiplient et le staff de Brian Epstein se retrouve soudain surchargé de travail. En tête des ventes d'albums, Please Please Me n'est remplacé à la première place que par le deuxième album du groupe, With the Beatles, publié le 22 novembre 1963. Ces deux disques sont exportés aux États-Unis respectivement sous les noms de Introducing the Beatles et Meet the Beatles, publié sur Capitol Records. Dans un premier temps, la maison de disques américaine affiche un mépris pour ce qu'elle pense n'être qu'un phénomène passager. Le 45 tours I Want to Hold Your Hand est leur premier numéro 1 sur le marché américain et y reste du 1er février au 14 mars 1964. Il sera détrôné par She Loves You du 21 au 28 mars, suivi de Can't Buy Me Love du 4 avril au 2 mai. Le classement du Billboard Hot 100 du 31 mars 1964 aux États-Unis fait apparaître 5 titres des Beatles aux 5 premières places. La Beatlemania, qui avait débuté au Royaume-Uni, va alors se propager de l'autre côté de l'Atlantique et dans le monde entier.
I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so, can buy me love. No, 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 no. Say you don't need no diamond rings, and I'll be satisfied. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me
Le premier concert des Stones avait eu lieu au Marquee Club à Londres, le 12 juillet 1962. Le groupe est alors composé de Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Ian Stewart au piano, Dick Taylor à la basse et Mick Avory à la batterie. Les Rolling Stones jouent comme Interval Band, juste une demi-heure le temps qu'avec le groupe principal se repose. Ce soir-là, Keith lance à Brian cette phrase tristement célèbre: tu n'arriveras pas à 30 ans, pas vrai ? Andrew Lou Goldman, jeune publicitaire d'alors 19 ans, qui a déjà travaillé avec Brian Epstein, Bob Dylan et Little Richard, ne rêve que de rencontrer et manager ces Beatles. Dans son parcours des clubs de Londres, il entre un jour au Crawdaddy Club et voit les Stones. C'est la révélation, il sera leur manager. Il signe avec eux un contrat de management dès le lendemain, le 29 avril 1963. Afin de se démarquer des Beatles, apparus un peu plus tôt et dont la popularité est exceptionnelle, le jeune manager des Stones leur crée une image de mauvais garçon. En opposition aux allures de gentil gendre des Fab Four, Jagger et sa bande cultivent leurs différences, refusant très rapidement le costume cravate, insistant sur leur chevelure et défraient la chronique par leurs frasques. Leur carrière prend un tournant définitif. Les concerts deviennent quotidiens. Bill Wyman et Charlie Watts quittent leur emploi pour intégrer les Stones à plein temps. Mick Jagger laisse tomber ses études et l'appartement à Edith Grove abandonné, Keith, Mick et Andrew habitent ensemble dans un nouveau logement où va débuter une nouvelle collaboration. En novembre 1963, Oldman enferme Mick et Keith dans une cuisine en leur interdisant d'en sortir tant qu'ils n'auraient pas écrit une chanson. Cette volonté est dictée par le fait qu'il était difficile pour les Rolling Stones de trouver quelque chose de neuf à jouer et parce que beaucoup de chansons de leur répertoire étaient jouées par d'autres groupes anglais, dont les Beatles, ce qui ne les aidait pas à se démarquer des autres. D'après la légende, il lui aurait soumis « As Time Goes By » que le manager renomme immédiatement « As Tears Go By » et fera enregistrer par la jeune chanteuse britannique Marianne Faithfull. Il semblerait cependant que la première chanson à être sortie de cette cuisine soit « It Should Be You » qui sera enregistrée une première fois par George Bean, un chanteur de la maison de production d'Oldman. Un autre groupe commence à percer sur la scène londonienne, porté par son leader et chanteur charismatique Eric Burdon, et celui-ci vient de Newcastle. Arrivant à Londres en 1964, The Animals signent chez Columbia, une filiale d'EMI, et enregistrent leur première chanson en studio. Ils rencontrent un succès immédiat avec le morceau traditionnel américain The House of the Rising Sun et s'affirment comme un groupe de scène remarqué. Leur sauvagerie sur scène, où se dégage notamment la voix âpre et puissante du chanteur Burdon, leur vaut rapidement le sobriquet de The Animals, qui devient leur nom officiel à partir de 1963.
lonesome. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one.
La Beatlemania fut un phénomène d'ampleur considérable et à plusieurs facettes. La jeunesse prend goût à se coiffer et s'habiller à la Beatles. Ils deviennent des trendsetters. Les disquaires se spécialisent sur la discographie des Beatles. Pour mieux gérer ses stocks, la société EMI propose la pré-souscription des albums et des singles à suivre, même s'ils sont encore à l'état de projet. Les précommandes atteignent dès lors des sommets inouïs, par exemple 2,1 millions pour Can't Buy Me Love en 1964. Des magazines spécialisés fleurissent, comme le célèbre Beatles Monthly, et se vendent comme des petits pains. L'atmosphère hystérique des concerts rend parfois ceux-ci presque inaudibles. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est une foule de plus de 10 000 fans qui les attend lorsqu'ils se posent sur le tarmac de l'aéroport international John Fitzgerald Kennedy de New York, le 7 février 1964. Un événement majeur va secouer l'Amérique moins de 48 heures plus tard. Plus de 73 millions de personnes, soit 45% de la population, assistent en direct à leur première prestation télévisée lors du Ed Sullivan Show diffusé par CBS le 9 février. Une audience record pour l'époque, qui reste encore de nos jours une des plus élevées de l'histoire, hors retransmission sportive. Certains médias iront jusqu'à affirmer que cet événement télévisuel a redonné le moral au pays, encore profondément traumatisé 77 jours après l'assassinat du président Kennedy. Ils donneront alors leur premier concert public sur le sol américain au Coliseum, un autre le lendemain au Carnegie Hall de New York, et un nouveau passage au Ed Sullivan Show, cette fois en direct de Miami, le 16 février. C'est pendant cette tournée estivale des États-Unis que les Beatles rencontrent Bob Dylan et que ce dernier leur fait essayer la marijuana pour la première fois. La légende veut que Bob Dylan ait compris le I Get High et qu'il ne se soit ainsi pas gêné pour leur proposer un joint. L'histoire d'amour entre les Beatles et les États-Unis, où ils enchaînent les numéros 1 en 1964 et 65, trouve un point d'orgue le 15 août 1965, en ouverture de leur seconde tournée de ce côté de l'Atlantique. Ce jour-là, ils sont le premier groupe de rock à se produire dans un stade, le Shea Stadium de New York, devant 56 000 fans déchaînés et dans des conditions singulières pour ce genre de spectacle, dans une telle arène, sous les hurlements de la foule. Les Beatles se produisent munis seulement de leur ampli Vox et sont repris par la sono du stade, c'est-à-dire les haut-parleurs utilisés par les speakers des matchs de baseball. Il en résulte que ni eux ni le public n'entendent clairement une note de cette prestation historique. Pionnier de la British Invasion, terme utilisé aux États-Unis pour y décrire la prédominance des groupes de pop-rock anglais, parmi lesquels les Rolling Stones, les Who ou encore les Kings, au milieu des années 60, les Beatles seront abonnés aux premières places dans des charts américains jusqu'à la fin de leur carrière. Ils détiennent d'ailleurs aujourd'hui un record absolu avec 209 millions d'albums vendus sur ce seul territoire. La musique n'a plus jamais été la même depuis lors, affirme la Recording Industry Association of America. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help.
so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right.
La Beatlemania bat toujours son plein en 1965 lorsque sortent le film Help dont Ringo Starr est la vedette et tourné sur fond de consommation intense de cannabis et le disque du même nom. Seule la moitié des titres de l'album fait partie de la bande-son du film et trois chansons vont marquer l'histoire du groupe. Autant de numéro 1 dans les charts. Help d'abord, où John Lennon, comme il l'avouera plus tard, se met à nu en appelant au secours. Le succès et la célébrité ne lui apportent aucune réponse. Il est, dira-t-il, dépressif et boulimique dans sa période Elvis gras. Ticket to Ride ensuite, considéré par Lennon comme le titre précurseur du hard rock avec ses effets de guitare, ses roulements de tom et sa basse insistante. Yesterday enfin, la chanson mythique de Paul McCartney qu'il joue à tout son entourage, une fois composée sous le titre de travail Scrambled Eggs, se demandant sincèrement et interrogeant à la ronde pour savoir s'il a bien inventé cette mélodie, qui lui serait venue tout entière lors d'un rêve, ou si elle ne vient pas de quelque part, tant elle paraît évidente. Elle deviendra la chanson la plus diffusée et la plus reprise du XXe siècle, près de 3000 reprises. Yesterday et son fameux arrangement pour quatuor à cordes, suggéré et composé par George Martin en compagnie de l'auteur de la chanson qui, pour la première fois, l'enregistre seul à la guitare acoustique, sans les autres membres du groupe. milieu des années 60, les radios pirates font leur apparition. L'une d'entre elles, Radio Caroline, est lancée le 29 mars 1964 par le producteur irlandais Ronan O'Reilly, qui vient de créer son label indépendant, mais se voit systématiquement refuser la diffusion de ses artistes sur la BBC. Il achète alors le Frederica, un vieux ferry danois qu'il équipe d'émetteurs radio dans le port irlandais de Greenore, propriété du père de Ronan O'Reilly. Il crée aussi la société Planet Productions, basée en Suisse, et enregistre son bateau au Panama. Le bateau se positionne dans les eaux internationales pour contourner le monopole d'État sur les radios, et la diffusion de Radio Caroline est inaugurée par DJ Simon Dee. Le premier morceau diffusé est Can't Buy Me Love des Beatles. Alors que les débuts de la radio sont fulgurants, 7 millions d'auditeurs âgés de plus de 17 ans dans les 3 premières semaines de diffusion, les DJ à bord du bateau s'ennuient et sont mal payés et ont le mal de mer. Le 2 juillet 64, Radio Caroline fusionne avec son concurrent Radio Atlanta, qui diffuse sur la Tamise depuis le Miamigo, et les deux bateaux assurent une couverture nationale à Radio Caroline. En mai 1964, les autorités encerclent le Frederica, ce qui déclenche un bulletin d'information en direct sur Radio Caroline, durant lequel il est rappelé que seule une personne des autorités est autorisée à monter à bord du bateau. Les autorités choisissent de rebrousser chemin. En 1965, un sondage dévoile une audience cumulée de 39 millions d'auditeurs. Radio Pirate donne l'occasion de diffuser et faire connaître d'autres groupes qui émergent sur la scène anglaise. L'un d'eux se nomme les Kinks et est emmené par la fratrie Davis. En janvier 1965, les Kinks font leur première tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande aux côtés de groupes comme Manfred Mann et The Honeycombs. Des tensions naissent au sein du groupe, donnant lieu à des incidents comme celui du concert de Cardiff le 19 mai, durant lequel Mick Avory passe près de tuer Dave Davis en lui lançant son Charleston à la figure. À la suite d'une tournée aux États-Unis au milieu de l'année, la Fédération américaine des musiciens interdit aux Kinks de se produire sur leur sol américain jusqu'à nouvel ordre. La réputation sulfureuse des Kinks aura eu raison d'eux et prive ainsi le groupe de la British Invasion aux États-Unis et de ce formidable marché du rock. Hallelujah. février 64, les Rolling Stones enregistrent en 5 jours au Regentstown Studios à Londres leur premier album, qui sort le 17 avril 64 et qui connaît le succès à sa sortie, avant de se lancer dans une tournée américaine où ils vont percer 2 mois plus tard. À partir de juin 64, le groupe enregistre ses chansons aux États-Unis, principalement à Los Angeles, dans les studios du label RCA, où une dizaine de sessions se déroulent jusqu'à mi-66, calées entre les dates de concert et au fameux studio Chess à Chicago, entre The Muddy Waters ou Chuck Berry. En 65, après la sortie de leur second album britannique intitulé The Rolling Stones No. 2, Mick Jagger et Keith Richards décollent enfin comme compositeurs, tout d'abord avec As Tears Go By, avant que The Last Time puis Satisfaction atteignent toutes deux la première place des charts, suivi de Get Off My Cloud et 19th Nervous Breakdown. Ces textes assoient la position des Stones qui arrivent désormais à évoluer au sommet comme les Beatles. Néanmoins, les textes des Stones se différencient beaucoup de ceux des Beatles par leur contenu. Si les Fab Four signent des bluettes bien sentimentales et innocentes, du moins à leur début, les Stones se distinguent par leur ton ironique et sarcastique sur la société et leur rapport aux femmes, parfois qualifiées de sexistes.
Try.
succès est si intense qu'à l'instar des Beatles, les concerts des Rolling Stones donnent également lieu à des scènes d'hystérie, comme le décrit Keith Richards. Ça arrivait peut-être à Frank Sinatra ou à Elvis Presley, mais je ne pense pas que le phénomène ait atteint l'ampleur qu'il a eu au temps des Beatles et des Stones, du moins en Angleterre. C'est comme si on avait ouvert une vanne. Les nanas de notre génération avaient été élevées très collet-montées et tout ça, mais il y a eu comme une révélation, un moment où elles ont brusquement décidé de se laisser aller. Et puisque l'occasion de se déboutonner en se présentait, qui allait les en empêcher? Tout cela dégoulinait de pulsions sexuelles, même si elles ne savaient pas trop quoi en faire, et puis soudain, le barrage cède et c'est le délire. Une force incroyable une fois lâchée. Elles étaient toutes sorties de leur gonds, plus elles-mêmes. Ces filles se déchaînaient dans les salles, les fringues déchirées, elles pissaient littéralement dans leurs culottes, et ça se répétait tous les soirs, au point qu'on ait fini par s'habituer. C'était la fête. N'importe qui d'autre que nous aurait pu vivre la même chose maintenant. Elle se contrefoutait de savoir que j'essayais d'être un bluesman. À cette époque, il nous est arrivé de jouer le thème de Popeye et personne ne se rendait compte puisqu'on n'entendait rien. Ils ne pouvaient pas entendre les voix ni les guitares, impossible. Ce qui les mettait dans cet état, c'était de se retrouver dans un espace clos avec cette illusion, moi, Mick et Brian. La musique était la gâchette. Quant à savoir de quoi la balle était faite, personne n'en avait la moindre idée. En général, c'était assez inoffensif, mais pas toujours. Il y a eu des mauvais coups. Et quelques spectateurs sont morts. Une fois, une fille s'est jetée du troisième balcon, a salement blessé la personne sur laquelle elle est tombée, et elle s'est elle-même tuée en se cassant le cou. Il se passait parfois des trucs durs, mais ce qui se passait invariablement chaque soir, c'est que des gens s'évanouissaient, qu'on évacuait sous notre nez alors qu'on jouait à peine depuis 10 minutes. Parfois, on les empilait sur un côté de la scène tellement il y en avait. On se serait cru au front. Et dans les provinces reculées, un territoire complètement nouveau pour nous, ça pouvait franchement devenir mauvais. À Hamilton, dans la périphérie de Glasgow, ils ont dû nous protéger derrière un grillage de poulaillers à cause des pièces taillées en pointe et des bouteilles de bière que nous lançaient les gars qui n'aimaient pas que les filles perdent la boule à cause de nous.
Let's just have it completely silent for one second while I say the Beatles!
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll ride home every day.
you. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing, and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Thank you.
keep you by my side. I got lips that long to kiss you and keep you satisfied.
So, but if he loves you more, go with him. you free. Go with him.
Set you free.